Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, bonjour et tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle réponde à vos attentes, en tout cas celles qui vous sont le plus chères. Alors, nous avons vu lors du premier cours les avancées de la connaissance en ce qui concerne certains aspects de la physiologie cochléaire au cours des deux dernières années. Nous avons vu, je vous rappelle, le rôle de l'enroulement de la cochlée dans la détection des sons de basse fréquence qui sont pour l'essentiel les sons de parole. Nous avons vu comment la membrane tectoriale, gèle cellulaire qui couvre le neuroépithélium auditif que vous voyez ici et qui s'étend de la partie interne du tube cochléaire à sa partie externe, a été reconnue au cours des deux dernières années comme étant le site de vibration multimodale. Les expériences récentes effectuées sur des membranes tectoriales isolées conduisent à abandonner les représentations antérieures pour attribuer à cette membrane des variations de rigidité dans son sens longitudinal, radial ainsi que transversal. Je vous rappelle ce qui sera tout à l'heure discuté plus avant par Jonathan Ashmore, que le point suivant, qui est le fait que la fréquence de résonance de la membrane basilaire n'est pas la même que celle de la membrane tectoriale. La fréquence de la membrane basilaire est un demi-ton plus élevée que celle de la membrane tectoriale. De ce fait, on conclut que la masse de la membrane tectoriale agit sur la touffe ciliaire des cellules ciliées externes, que c'est par sa masse qu'elle agit. La vibration de la membrane tectoriale ainsi paraît être dominée par ses composantes transverses et radiales. Et le mouvement de la membrane tectoriale par rapport à la reticula lamina, structure qui correspond à l'apex des cellules sensorielles et à l'apex des cellules de support, ce mouvement est en opposition de phase, de sorte que l'espace sous-tectorial tantôt se rétrécit autour d'un cycle, tantôt, au contraire, s'élargit. Alors, nous avons également souligné le fait que la raideur ou rigidité de la membrane tectoriale est semblable à celle des touffes ciliaires. Et donc, au total, tout indique que la membrane tectoriale est le siège d'une onde de propagation radiale sur toute sa longueur lors de la stimulation sonore. Alors, je laisserai donc à Jonathan Ashmore le soin de développer ces points qui seront sans doute développés à nouveau par Anthony Gummer qui donnera le dernier séminaire dans le cadre de ce cours. Donc, on peut dire au total que la membrane basilaire a une résonance passive de faible amplitude dont l'accord en fréquence est très dégradé. Qu'il s'y ajoute un processus actif dû aux cellules ciliées externes. En l'absence de la membrane tectoriale, il augmente très faiblement l'amplitude du déplacement de la membrane basilaire. En la présence de la membrane tectoriale, il peut l'accroître jusqu'à 100 fois. Les cellules ciliées externes participent de l'accord fréquentiel via leur interaction avec la membrane tectoriale. Enfin, la membrane tectoriale a un autre rôle par sa carte de résonance fréquentielle décalée d'un demi-octave par rapport à celle de la membrane basilaire. Elle affine la réponse en fréquence des cellules ciliées externes. Alors, j'ai ensuite évoqué le rôle des mutants de la membrane tectoriale, en particulier les mutants qui ont été générés et qui consistent à inactiver ou introduire des mutations faux sens dans les gènes qui codent pour les tectorines, qui sont les composants principaux des membranes, de la membrane tectoriale. Alors, nous avons vu un certain nombre de résultats intéressants dérivés de l'étude de ces mutants. L'inactivation de l'alpha-tectorine qui conduit au détachement de la membrane tectoriale, donc il n'y a plus de stimulation des touffes des cellules ciliées externes par la membrane tectoriale, et qui se traduit par le fait que les potentiels microphoniques qui correspondent à la réponse électrique des cellules ciliées externes de la base de la cochlée perdent leur symétrie par rapport au potentiel de repos. Ce qui a conduit les auteurs à conclure, à la conclusion suivante, le rôle de la membrane tectoriale est de maintenir la touffe des cellules ciliées externes dans un point de fonctionnement qui est, en quelque sorte, qui est symétrique par rapport à la dépolarisation et l'hyperpolarisation qu'elle subira sous l'effet de l'onde sonore. J'évoquais ensuite une situation amusante qui est celle d'une mutation qui avait été trouvée chez un patient, mutation dominante dans l'alpha-tectorine, qui conduisait au fait que l'espace sous-tectorial était creusé strictement en regard des cellules ciliées internes. Et ce qui se produisait, c'est un découplage de la stimulation de la cellule ciliée interne par rapport à l'externe. Tout indiquait que la cellule ciliée externe, dans cette situation, était convenablement stimulée, mais pas l'interne. Enfin, nous avons vu une situation tout à fait particulière. Lors de l'inactivation totale du gène qui code pour la bêta-tectorine, dans ce cas, la partie basale de la membrane tectoriale gardait son rapport normal au neuroépithélium sous-jacent. La partie apicale était en quelque sorte détachée. Eh bien, ce que l'on observait, c'est que la réponse aux hautes fréquences, là où la membrane tectoriale est normale, était non seulement, on peut dire normale, mais en quelque sorte hypernormale, c'est-à-dire plus accordée en fréquence que normalement. Ce qui avait été mis en parallèle avec une perte de l'élasticité de la membrane tectoriale due à son détachement apical. Alors ensuite, nous avons vu, nous nous sommes intéressés très largement à la première synapse des voies auditives, celle que forment les cellules ciliées internes avec les neurones auditifs. Et compte tenu des propriétés que nous allons revoir du système auditif, qui repose en particulier sur la rapidité de sa réponse et la précision temporelle, tout indique donc que dès le premier relais synaptique, ces exigences doivent être remplies. Cette cellule sensorielle auditive comporte des rubans synaptiques, je n'y reviens pas, et cette cellule sensorielle auditive, cette synapse, se comporte en réalité comme un convertisseur analogique digital dans la partie de la cochlée qui répond aux fréquences basses, c'est-à-dire pour lesquelles la dépolarisation va être, on va obtenir une dépolarisation membranaire cyclique avec le son, ceci jusqu'à environ 3 kHz. Alors, digital, donc convertisseur analogue digital, pourquoi ? Puisque au niveau du neurone auditif, ce que l'on va observer, ce sont des potentiels d'action. Alors, ce convertisseur, il fonctionne chez l'adulte de façon linéaire. Par cette linéarité, j'entends le fait que l'exocytose synaptique est proportionnelle au courant calcique. Alors, l'exocytose synaptique, qu'elle soit mesurée par la capacitance membranaire ou l'amplitude des potentiels excitateurs postsynaptiques. Pour autant, tout indique que intrinsèquement, le senseur calcique est non linéaire. Comment le sait-on? Lorsqu'on utilise pour faire monter le calcium intracellulaire des flashs calciques, on voit alors que la courbe d'exocytose n'est pas une droite, mais une exponentielle d'ordre 3, 4 ou 5. Alors, comment peut-on expliquer le fait qu'il y a d'une part une propriété intrinsèque du ou des senseurs calciques qui est non linéaire et un fonctionnement linéaire? Alors, la réponse qui a été apportée à travers ce que nous avons discuté est le fait que, sans doute, à l'état de repos dans la synapse de la cellule ciliée interne adulte, le senseur calcique est pratiquement toujours saturé. Il est proche de sa saturation. Deuxième conclusion, les canaux calciques dépendants du voltage sont sans doute très proches des vésicules. En de sorte que toute ouverture, l'organisation est telle que toute ouverture d'un canal calcique à lui seul peut provoquer la fusion d'une vésicule synaptique avec la membrane présynaptique. Alors j'ai dit d'une, mais nous l'avons vu amplement, c'est une fusion multivésiculaire. Alors, ceci donc tentait à dire que l'on avait affaire à une organisation de cette synapse en nanodomaine, dont je vous rappelle que l'organisation synaptique est décrite tantôt en nanodomaine, tantôt au microdomaine, qu'il s'agit d'une définition purement opérationnelle qui lie le fait que l'organisation en nanodomaine est telle que l'exocytose synaptique est bloquée par le BAPTA et le GTA, deux inhibiteurs du calcium, alors que l'organisation en microdomaine ne l'est que par le GTA. Alors, je reviens très rapidement là-dessus. Ces chélateurs du calcium ont la même affinité, BAPTA et EGTA, pour le calcium, fixent le même nombre d'ions calciques, mais ne les fixent pas à la même vitesse. On tente à corréler leur vitesse de liaison à la distance qui existe entre les canaux calciques et le senseur calcique, qui est en même temps un effecteur, puisqu'il va produire la fusion de la vésicule avec la membrane présynaptique. Alors, pourquoi cela? Le BAPTA agit très rapidement. Le GTA, quant à lui, agit très lentement. Par conséquent, le BAPTA ne va être capable de bloquer que le calcium qui, en quelque sorte, se trouve très proche de la bouche calcique. Donc, en conclusion, quand on a une organisation en nanodomaine où le canal calcique est très proche de la vésicule synaptique, on attend un blocage par le BAPTA. En revanche, lorsqu'on est à distance, on n'attend pas de blocage par le BAPTA. Alors, nous avons vu, je n'ai pas le temps d'y revenir, et c'est pas, nous faut passer maintenant à l'objet du cours d'aujourd'hui, mais nous avons vu que, pour autant, les données obtenues par Elisabeth Glowacki ne permettent pas de dire oui, à l'âge adulte, on a bien une organisation de type nanodomaine dans la cellule ciliée interne qui permettrait de rendre compte de cette linéarité de fonctionnement. Alors, avant de passer à ce qui va faire l'essentiel du cours d'aujourd'hui, j'aimerais insister à nouveau sur cet aspect de fonctionnement linéaire de ce système sensoriel pour dire que ce n'est pas non plus une spécificité du système sensoriel auditif. L'an passé, et enfin, au cours des deux dernières années, il a été montré très clairement que le vestibule fonctionne lui aussi de façon linéaire. Donc, il y a tout un ensemble d'arguments qui laissent penser qu'il s'agit peut-être d'une propriété très générale des systèmes sensoriels et qui pourrait être utilisée pour le dialogue entre les différents sens. Alors, je vais maintenant en venir à ce qui va faire donc l'objet du cours, la localisation de la source sonore. Ah, auparavant, juste pour conclure, un point pour revenir à cet aspect de précision temporelle dont nous verrons que c'est à partir de cette précision temporelle qu'il va y avoir moyen d'effectuer la localisation de la source sonore, j'ai mentionné le fait que, en quelque sorte, la précision temporelle est maintenue à l'écart des variations d'intensité sonore au niveau de cette première synapse de la façon suivante. Si on augmente l'intensité sonore, on ne modifie en rien le délai synaptique, contrairement à ce qui se passe dans la plupart, en tout cas, des synapses du système nerveux central. Donc, c'est cette sorte de dichotomie qui repose sur le fait que ce que fait la variation d'intensité, c'est simplement d'augmenter la probabilité de l'événement de fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique. C'est au prix de cette séparation du traitement de l'intensité et du traitement temporel que cette synapse a une précision temporelle maintenue, quelle que soit donc l'intensité sonore. Et ce qui est amusant, et on le reverra très largement dans la suite du cours, c'est qu'il s'agit d'une propriété qui avait été observée dès 1967 par Rose, qui avait montré que la propagation des potentiels sur le nerf auditif était invariante, quelle que soit l'intensité dans leur délai d'apparition. Alors, j'en viens maintenant à la localisation de la source sonore. J'ai vu que quelqu'un prenait des photos. Tout ceci est disponible sur le site du Collège de France et je pense que vous n'avez aucune difficulté pour télécharger. Enfin, je suis sûre, il n'y a aucune difficulté pour télécharger l'ensemble de ces diapositives. Alors, l'an passé, j'ai présenté les voies auditives et mis l'accent sur la description des noyaux du tronc cérébral et de leur population neuronale. J'avais ébauché à la fin du dernier cours le principe de localisation des sources sonores basse fréquence dans le plan horizontal. Nous allons voir cette année la localisation des sources basse haute fréquence dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Donc, je ne reviendrai pas sur les aspects histologiques, très peu, pour me concentrer davantage sur les aspects physiologiques et comportementaux. Alors, l'importance de la localisation de la source sonore a été reconnue depuis bien longtemps. La première question qui a alors été posée est la suivante. Quels sont les paramètres physiques des sources sonores qui sont mises à profit pour déterminer la localisation des sources? 3 ont été reconnus. Ils dépendent tous de l'interaction des ondes sonores incidentes avec les structures anatomiques qu'elles rencontrent avant de gagner le tympan. Le pavillon de l'oreille, la tête et le torse selon la localisation de la source sonore dans l'espace. Ces paramètres physiques sont pour l'un temporels, pour le second il s'agit d'un paramètre d'intensité. Et pour le troisième, il porte sur le contenu spectral des sources. Quel que soit le paramètre mis en jeu, je vous le répète, la clé de la localisation des sources sonores se trouve dans leur interaction avec les structures anatomiques, d'où le terme très général utilisé, qui est celui de fonction de transfert de ces structures, et tout particulièrement de fonction de transfert de la tête. Il décrit comment la tête modifie le délai d'arrivée d'une onde sonore à l'oreille la plus proche, surtout à l'oreille la plus distante de la source sonore. Comment la tête modifie l'intensité des vagues sonores qui arrivent à l'oreille la plus distante de la source, et comment la tête modifie le contenu spectral des vagues sonores qui arrivent à l'oreille la plus distante de la source, ou tout bonnement à l'oreille, puisque nous verrons le contenu spectral est mis en cause dans la détection qui se fait par une seule oreille. La fonction de transfert liée à la tête, en anglais, Head-Related Transfer Function, est abrégée, vous la verrez dans les publications, par HRTF. C'est une mesure physique et non une mesure psychoacoustique ou psychophysique, comme le sera la réponse du sujet qui va indiquer où se situe la source sonore dans l'espace. Alors, nous allons voir successivement le comportement des ondes sonores à la rencontre d'un obstacle, la définition de la position des sources sonores dans l'espace, la fonction de transfert de la tête, comment l'étudier, la caractériser, quelle est-elle, et nous passerons ensuite aux bases neurophysiologiques de la localisation de la source sonore. Nous verrons dans un premier temps les théories proposées, au premier rang desquelles la théorie de Lord Rayleigh, 1907, repris ensuite par d'autres chercheurs et en quelque sorte étayé jusque vers les années 1970. Puis nous nous concentrerons sur la localisation des sources basse fréquence dans le plan horizontal, donc qui fait l'objet du cours d'aujourd'hui. Et nous verrons l'influence considérable de la théorie de délai de ligne publiée en 1948 par Jeffries sur tout le champ disciplinaire. Nous verrons brièvement les bases cellulaires et de façon un peu plus approfondie les bases physiologiques de la localisation des sources basse fréquence, et nous verrons que tout paraissait résolu et tout parfaitement en accord avec la théorie de Jeffries tant que les études portèrent principalement sur l'oiseau. Et que lorsque les chercheurs ont commencé à s'intéresser à la localisation des sources basse fréquence dans le sang, dans le plan horizontal, eh bien les résultats obtenus paraissent différents et sont aujourd'hui l'objet de controverses que je vous livrerai. Alors, comment se comportent les ondes sonores à la rencontre d'un obstacle ? Un objet qui fait obstacle à la propagation des ondes sonores provoque des phénomènes d'absorption, de réflexion, de diffraction et peut aussi provoquer des phénomènes d'interférence. La réflexion des ondes acoustiques lorsqu'une onde sonore se heurte à un obstacle, une partie de son énergie peut être associée à l'onde qui réfléchit comme dans un miroir. Une autre peut être absorbée dans le matériau de l'obstacle. Une autre peut être traversée, peut être au contraire transférée de l'autre côté de l'obstacle. La part de la réflexion dépend de l'impédance relative du milieu dans lequel se propage l'onde par rapport à l'impédance de l'obstacle. Plus il y a disparité d'impédance forte, plus longue et réfléchie. Si l'onde sonore a une longueur d'onde de dimension supérieure à celle de l'obstacle, elle peut être réfléchie. Tout comme un rayon lumineux sur un miroir, les directions de propagation du son incident et du son réfléchi forment, avec la normale qui est indiquée ici en pointillé, deux angles alpha et bêta égaux. Ni la fréquence ni la longueur d'onde ne sont modifiées au cours de ce processus. L'amplitude diminue selon l'absorption de la surface réfléchissante. Alors, quant à l'absorption, elle varie d'un matériau à l'autre, mais d'une façon générale, les matériaux absorbent davantage les hautes fréquences que les basses fréquences. Voyons la diffraction des ondes acoustiques. La diffraction réfère au fait que dans certains cas, comme vous le voyez en B, l'onde sonore contourne ou paraît contourner les objets. Ici, le petit objet symbolisé en noir. Diffraction observée aussi lorsqu'au sein d'un obstacle, il y a en quelque sorte un orifice et qui va se comporter comme une autre source sonore et autoriser une partie de la propagation, mais très large, de l'onde sonore. Alors, quelles sont les conditions de survenue de la diffraction? Ce qui détermine ou non la diffraction des ondes sonores, c'est la longueur d'onde de l'onde sonore versus la longueur de l'obstacle, versus celle de cet obstacle, versus la taille de l'orifice ici. Quand elle est supérieure à celle de l'obstacle, la diffraction survient. Alors, si on prend le cas de l'orifice dans l'obstacle, ceci s'accompagne d'une perte d'énergie, comme je l'ai dit, mais d'une part parce qu'il y a absorption, mais on voit donc que l'onde se répand largement de l'autre côté de l'obstacle. Alors, maintenant, donc on est ici dans une situation où la longueur d'onde est grande par rapport à l'orifice ou à l'obstacle. Si la longueur d'onde est maintenant petite par rapport à l'orifice ou à l'obstacle, eh bien, on va avoir, dans le cas d'un obstacle, une ombre projetée derrière l'obstacle. Tout ceci pour dire que les ondes basse fréquence ont tendance à diffracter davantage que les ondes haute fréquence. Alors, j'en viens maintenant à la définition des axes. L'axe qui va nous intéresser aujourd'hui est l'axe horizontal, plan horizontal, plan azimutal. Alors, l'azimut 0 correspond à l'intersection du plan horizontal avec le plan médian qui passe à une distance égale entre les deux oreilles, c'est-à-dire par l'axe du nez. Ceci définit l'azimut 0, l'azimut 90 étant localisé donc au niveau des oreilles. Alors, on va définir des angles en degrés, angles qui correspondent donc à des angles, un angle azimutal et un angle dans le plan vertical ou des angles qui correspondent à des angles d'élévation. Alors j'en viens maintenant au troisième point, la caractérisation de la fonction de transfert de la tête. Comment la caractériser ? Comment caractériser les sons qui parviennent à l'une et l'autre oreille à partir d'une source sonore ? Ceci se fait assez simplement en plaçant dans les conduits auditifs externes d'un homme ou d'un animal un microphone de petite taille enfoncé le plus profondément possible, c'est-à-dire jusqu'à la membrane tympanique. On place un microphone dans chacune des deux oreilles. Un son est délivré à distance de l'auditeur à partir d'un haut-parleur. Son contenu spectral, ses caractéristiques temporelles et ses caractéristiques d'intensité sont contrôlées. La position de l'auditeur ou celle du haut-parleur vont être modifiées et on analysera les tracés sonores recueillis par les deux microphones qui vont être comparés aux tracés de la source sonore. Alors, ce que l'on fait aussi, c'est de délivrer directement, à travers des écouteurs, des stimuli sonores synthétiques, en s'interrogeant sur le propos suivant. Il s'agit de délivrer des stimuli sonores qui, pense-t-on, reproduisent les caractéristiques du son qui arrive à l'une et l'autre oreille, plus particulièrement, qui reproduisent les caractéristiques du son qui vont être mis à profit, les paramètres sonores qui vont être mis à profit pour localiser la source sonore dans l'espace. Alors, donc ceci permet en réalité d'évaluer, d'une part, de vérifier qu'on maîtrise bien les paramètres de fonction de transfert de la tête, puis ensuite de s'interroger sur la nature des paramètres qui sont utilisés pour localiser la source sonore. Donc, on parle de champ sonore virtuel reconstitué. Alors, quelle est la fonction de transfert de la tête ? Eh bien, à travers ce que je vous ai dit en ce qui concerne le comportement des ondes sonores face aux obstacles, vous pouvez deviner. Elles diffractent les ondes sonores basse fréquence qui la contournent. Chez l'homme, la longueur d'onde, tant que la longueur d'onde est supérieure au diamètre de la tête, elle est diffractée. Ceci correspond à des fréquences inférieures à 1500 Hz. Ceci correspond à un délai temporel entre l'arrivée du son à l'une et l'autre oreille qui, chez l'homme, est de 700 microsecondes. Cette disparité temporelle est abrégée par, en anglais, ITD, qui traduit le délai temporel acoustique d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille. Chez le chat, ce délai acoustique, du fait que sa tête est plus petite que celle de l'homme, est de 300 à 400 microsecondes. Chez la gerbille, de 180 microsecondes. Chez la chauve-souris, 80 microsecondes, vous voyez qu'il n'y a guère de place pour analyser la disparité temporelle. Alors, cette disparité temporelle varie avec la localisation de la source sonore dans l'espace. Si la source sonore est comme indiqué par le haut-parleur vert, dans la position azimutale 0, le son arrive avec le même délai temporel aux deux oreilles. Il n'y a pas de différence de délai temporel. Plus on va se déplacer à distance de cette position d'azimut 0, plus le délai temporel va augmenter. Alors, passons maintenant à la fonction de transfert de la tête pour les ondes haute fréquence. Là aussi, vous pouvez deviner, je vous ai dit que pour les ondes haute fréquence, il y a des effets d'obstacle, d'ombre portée de l'obstacle. Ici, la tête. Alors donc, la tête crée une ombre portée sur la propagation des ondes sonores de haute fréquence, en anglais « head shadow », et ces effets d'ombre de la tête sont déterminés à nouveau par les caractéristiques physiques de la tête et également par la longueur d'onde du son. La tête atténue l'intensité des sons des fréquences qui ont une fréquence élevée. L'ombre portée va donc se traduire par une différence de niveau sonore des sons qui parviennent à l'oreille la plus proche de la source sonore et à l'oreille contralatérale. On parle de disparité d'intensité sonore interorale, abrégé en anglais ILD, le L pour level, pour intensité. Alors, maintenant, qu'en est-il des signaux spectraux ? Je vous ai dit que la tête peut modifier les signaux spectraux par réflexion et par diffraction. Elle peut modifier le spectre. Certaines composantes du spectre vont être majorées, d'autres minorées. C'est principalement, nous le verrons dans le dernier cours, ce qui est mis à profit pour localiser la source sonore dans le plan vertical, mais pas seulement, j'y reviendrai. Un mot d'histoire. Alors, comment localise-t-on la source sonore ? Cette fois-ci, nous abandonnons, pas totalement, mais en partie, les dimensions physiques pour nous intéresser à la psychophysique. 1907, Lord Rayleigh, dont on trouve des portraits compte tenu de sa contribution à la physique partout, publie sa théorie sur la localisation des sources sonores. Le papier, la publication d'origine peut être aisément trouvée et je vous invite, je peux vous la procurer, mais enfin vous pouvez vous la procurer aisément et je vous invite à la lire. Elle est fort instructive, elle a un ton extrêmement alerte. Un ton de dialogue qui représente ce qu'étaient les publications autrefois. Alors, nous allons voir que ce qu'a proposé Lord Rayleigh fait aujourd'hui l'objet d'un consensus. Ce qu'il a proposé, c'est la façon dont les ondes sonores, la source sonore, pardon, pouvait être localisée dans le plan horizontal. Et il a dégagé deux paramètres, le paramètre temps, que j'évoquais tout à l'heure, pour les ondes basse fréquence, et le paramètre intensité sonore. Ce qu'il a proposé va être repris par ses successeurs. Il souligne en particulier que les sons basse fréquence subissent peu de modifications de leur intensité en gagnant l'oreille contralatérale, et lorsqu'il obstrue l'oreille de l'auditeur en lui présentant des sons, l'une des oreilles de l'auditeur, puis le laisse accéder à une écoute binaurale, en présentant des sons de différentes fréquences, il va conclure que la localisation de la source sonore basse fréquence repose sur ce fameux délai temporel interoral et la localisation haute fréquence sur la disparité d'intensité. Il va proposer donc un système double. Il va mieux faire, il va observer ce qu'il appelle une surdité de localisation avant-arrière des sources sonores basse fréquence. Il va montrer que lorsque l'on a affaire à des sons purs, l'auditeur va pouvoir localiser la source sonore, mais va être incapable de dire si elle se trouve devant lui ou derrière lui. Il y a donc, lorsque l'on a affaire à des sons purs, basse fréquence, la possibilité de les localiser en ce qui concerne leur angle azimutal, mais l'auditeur ne peut savoir si elle se situe devant ou derrière. Ceci est repris 30 ans plus tard par Stephen et Newman, qui s'intéressent donc à la localisation de la source sonore, à nouveau dans le plan horizontal, mais du point de vue des erreurs que fait l'auditeur. Et ces auteurs vont montrer, ici en ordonnée le taux d'erreur et en abscisse la fréquence, qu'il y a un maximum d'erreurs réalisées par les sujets entre 3000 et 6000 Hz. Et ceci, quelque part, conforte le système, la théorie duplex proposée par Lord Rayleigh, qui stipulait un traitement des basses fréquences d'un côté et des hautes fréquences de l'autre, laissant donc les fréquences intermédiaires résolu en partie par un système et par l'autre, ce qui rend compte ou qui est en accord en tout cas avec les erreurs fréquentes que l'on fait pour localiser les sources dans le plan azimutal, sources de son pur dont la fréquence varie ou s'étage de 3 kHz à 6 kHz. Donc, zone intermédiaire. Et même chose en ce qui concerne les erreurs dont je vous ai parlé, qu'avait déjà noté Rayleigh, elles vont être systématiquement analysées par Stevens et Newman, et ils vont montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que le taux d'erreur est de 40% en ce qui concerne la position avant ou arrière pour des sources basse fréquence, et il est bien moindre pour des sources haute fréquence. Donc, l'auditeur répond pratiquement au hasard en ce qui concerne la position avant ou arrière d'une source, son pure basse fréquence. Ce qui signifie que cette fameuse disparité temporelle sur laquelle je vais revenir n'est pas la seule, en tout cas le seul paramètre qui va permettre de localiser les sources basse fréquence dans le plan horizontal. Nous verrons que lors du dernier cours, que l'auditeur, et vous savez localiser les sources basse fréquence devant ou derrière vous, devient capable de les localiser dès que le contenu spectral est plus riche. Parce que le contenu spectral va fournir une autre clé qui va permettre donc de distinguer l'avant de l'arrière, puisqu'il s'agit essentiellement d'une réponse qui se fait sur le pavillon de l'oreille, et donc qui est une réponse directionnelle. Alors, maintenant, juste parce que je trouve que ces travaux sont des travaux extrêmement solides, j'aimerais mentionner les travaux de Mills, 1958-1960, publiés dans le JASA. Un peu plus précis que les travaux antérieurs, il s'agit ici de l'angle minimal audible en fonction de la fréquence. Lorsque on s'éloigne de l'axe azimutal, eh bien, ce que l'on voit, c'est le fait que plus on s'éloigne de l'axe azimutal, plus l'angle audible, minimal audible, devient grand. Donc, traduisez spontanément, si vous voulez entendre un locuteur, vous vous placez face à lui. Ce que montrent également ces courbes, c'est le fait suivant pour toutes ces, quelle que soit la position de la localisation de la source sonore, quel que soit son angle azimutal, le seuil montre deux. Il y a deux seuils minimaux qui correspondent chez l'homme aux basses fréquences et qui correspondent également, qui sont ici un peu décalés, qui correspondent à des seuils que l'on trouve plutôt maintenant vers 6000. Il montre également, ces papiers, que l'intensité sonore d'onde sonore qui arrive une à une oreille et à l'autre, varie avec la fréquence. Je vais passer pour montrer le caractère général de la localisation de la source sonore et de ses variations de seuil de sensibilité en fonction de la fréquence. Il n'y a pas que chez l'homme pour lesquels il existe un seuil de sensibilité différent en fonction de la fréquence. Ceci a été généralisé au chat, où vous voyez un seuil de sensibilité particulièrement bas jusqu'à environ 1 kHz et que l'on retrouve au-delà de 8 kHz. Alors maintenant, j'en viens à la théorie dont je vous ai dit qu'elle avait conditionné toute les recherches dans ce champ qui est la théorie élaborée par Jeffries pour rendre compte du délai ou de la disparité, du délai temporel de l'onde arrivant à l'une et l'autre oreille comme paramètre de localisation de la source sonore. Alors, ce que propose Jeffries, c'est une transformation d'un délai de temps acoustique que met donc l'onde sonore pour parvenir à l'une et l'autre oreille, transformation en un gradient spatial neural. Donc ce qu'il propose, nous allons le voir, c'est donc cette conversion, variation, délai de temps acoustique, gradient spatial neural. Trois hypothèses sous-tendent sa théorie. La première, l'information sonore qui vient des l'une et l'autre oreille va converger. Elle va converger vers un noyau qui, par définition, va être dit binaural. Le profil de décharge des neurones provenant de l'une et l'autre oreille, qui vont donc aboutir à ce neurone binaural, porte un code temporel. Donc, les neurones qui viennent de chacun des deux oreilles ont une activité qui est marquée du code temporel. Deuxième élément de l'hypothèse, les neurones du noyau binaural déchargent seulement quand les potentiels d'action qui leur parviennent des neurones mono-oraux de chacune des deux oreilles coïncident strictement dans le temps. Ces neurones binauraux vont être appelés détecteurs de coïncidences. Les neurones, alors troisième élément de l'hypothèse, et c'est les deux premiers sont des éléments physiologiques, le troisième élément, c'est un postulat de nature anatomique, de nature histologique. Jeffreys postule que les neurones afférents mono-oraux ont des branches axonales dont la taille est différente et graduellement ordonnée selon un gradient inverse pour l'une et l'autre oreille. Ça va être illustré, ne vous inquiétez pas. Ainsi, chaque neurone détecteur de coïncidence reçoit une information délivrée par des neurones mono-oraux provenant de l'oreille ipsi et contralatérale et dont la longueur totale des axones paraît ou peut être constante d'un détecteur de coïncidence à l'autre. Ces neurones binauraux sont arrangés de telle sorte que l'information venant d'une oreille va être délivrée à un ensemble de détecteurs de coïncidence avec une augmentation de la taille des axones. Donc ce que vous voyez ici, ce sont en vert et en rouge les terminaisons axonales des neurones mono-oraux venant de chacune des deux oreilles qui convergent vers les détecteurs de coïncidence. L'idée est la suivante. La somme du délai neuronal qui va être introduit par la différence de longueur axonale et du délai acoustique est la même pour l'information quand la somme du délai neuronal et du délai acoustique est la même pour l'information provenant de l'une et l'autre oreille, le détecteur de coïncidence est activé, il décharge. On peut dire aussi que quand la différence entre les délais acoustiques entre les deux oreilles et les délais neuronaux est la même, on va avoir décharge. Il y a donc bien conversion d'un temps acoustique en un code neural qui va se traduire par une carte de ces neurones détecteurs de coïncidence. Et l'idée est que chaque détecteur de coïncidence est en quelque sorte accordé à un délai acoustique particulier pour lequel il répond préférentiellement. Alors, ce qui est crucial dans la théorie de Jeffreys, il y a plusieurs aspects, mais il y en a un sur lequel je vais revenir, pas seulement, mais celui-là plus particulièrement, parce qu'il fait l'objet d'une littérature abondante, c'est ce gradient de longueur des axones. Alors, ceci est une autre illustration de la théorie de Jeffreys. Donc, ici, vous voyez en vert la réponse d'un détecteur de coïncidence lorsque la source sonore est face à l'observateur, azimut 0, c'est celui-ci qui répond qui a le même délai de ligne. La source sonore arrive au même moment des deux côtés, ou à chacune des deux oreilles, et le délai axonal sera le même des deux côtés. Ici, la réponse, lorsque le détecteur, pardon, le haut-parleur, a été déplacé loin de la position médiane ou de l'autre côté, nous verrons, c'est les structures contralatérales qui répondent, contralatérales à la source sonore, qui répondent. Y a-t-il des détecteurs de coïncidence? Eh bien, la première preuve de l'existence de détecteurs de coïncidence a été apportée dans un travail qui fait référence à un travail de Goldberg et Brown chez le chien en 1969. Alors, je ne peux pas vous montrer malheureusement les tracés parce qu'on dépend là de photocopies dont la qualité sans doute de l'ouvrage n'est pas suffisante. Mais les conclusions sont les suivantes. Ces auteurs montrèrent ce qu'ils firent. Ils cherchèrent la présence d'un détecteur de coïncidence dans le tronc cérébral. Et ils trouvèrent, premièrement, certains neurones qui répondaient particulièrement à des basses fréquences. Et ils montrèrent que ces neurones qui étaient sensibles aux basses fréquences étaient aussi remarquablement sensibles au délai temporel interoral. Leur taux de décharge, de fait, s'élevait significativement lorsque il y avait délai temporel interoral, c'est-à-dire lorsque la position de la source sonore quittait l'axe azimutal. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première démonstration d'une sensibilité temporelle au niveau du système nerveux. Ce sont les travaux toujours de Goldberg et Brown qui introduisirent la notion de meilleur délai temporel interoral, en anglais best ITD. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire le délai interoral pour lequel un neurone donné répond à, disons, de façon privilégiée. Et ils montrèrent plus que ce délai pouvait être prédit à partir des enregistrements monoauraux. C'est-à-dire, ce qu'ils montrèrent, et nous le reverrons, ceci a été refait ensuite de ça chez la chouette, si l'on introduit une électrode dans ces neurones et que l'on stimule le système en obturant une oreille, donc on stimule simplement une oreille, on peut mesurer le temps au bout duquel le neurone en question répond. On garde l'électrode dans ce neurone et on fait la même opération en stimulant, toujours à la même fréquence, au niveau de l'oreille opposée. On a ce qui a d'abord été observé, c'est que le temps, le délai de réponse de ces neurones était distinct selon qu'on les stimulait à droite ou à gauche. Et si maintenant on soustrayait le délai, ou plutôt on soustrayait le temps d'arrivée, le temps de réponse du neurone à une stimulation ipsilatérale, sonore ipsilatérale et contralatérale, on obtenait une valeur qui s'est trouvée être exactement la valeur qui correspond à celle pour laquelle l'emplacement de la source sonore va créer un délai temporel de même valeur. Est-ce que c'est clair ? Je reprends. La force de ce manuscrit, dont je vous signale qu'il est continuellement référencé, apparemment, c'est probablement ce qu'on a encore fait de mieux dans le domaine, et il date d'une quarantaine d'années. C'est d'avoir montré la chose suivante. Chez le chien, on introduit une électrode dans un emplacement, dans un neurone particulier du tronc cérébral. On va ensuite de ça regarder les décharges de ce neurone et tout particulièrement le temps au bout duquel il décharge. On choisit un son qui a une fréquence basse donnée. On présente ce son à l'oreille contralatérale et on a un délai de réponse du neurone A. On présente ce son à l'oreille ipsilatérale et on a une réponse B. La réponse est donc différente, ce qui indiquait déjà que que les délais neuronaux étaient distincts pour les deux types d'innervation de ce neurone. Eh bien, on obtient, si on soustrait l'un par l'autre, un temps donné. Je vais vous dire 40 microsecondes. On va ensuite de ça passer à une stimulation binaurale, où on va placer la source sonore à différents emplacements. Eh bien, on va s'apercevoir que ce neurone va décharger préférentiellement pour une position de la source sonore qui introduit un délai acoustique de 40 microsecondes. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, c'était démontré. Ben, il y a d'un seul... Oui, absolument. Non, il répond des deux, absolument. Oui. Alors, donc voilà, donc ça, c'était une magnifique démonstration de la théorie de Jeffries. Des lignes différentes, enfin des longueurs, enfin, des trajets axonaux, des plus longs vraisemblablement d'un côté que de l'autre, et une décharge qui correspondait bien à ce qu'avait prédit la théorie. Alors, très bien, existe-t-il des axones, des neurones dont les axones sont plus ou moins longs selon qu'ils viennent innerver un détecteur de coïncidence ou non? Eh bien, oui, je peux répondre oui pour l'oiseau, en sachant cependant que chez le poulet, cette longueur d'axone qui est prédite par la théorie de Jeffries, n'a été observée que pour l'innervation qui vient du côté contralatéral par rapport à la source. Du côté ipsilatéral, les axones ont la même longueur. Mais la théorie de Jeffries n'a pas besoin, pour être valide, d'avoir une différence de longueur axonale des deux côtés. Un seul côté suffit dès lors qu'il introduit un délai dans la propagation de l'influx nerveux. Alors maintenant, je vais en venir au... Nous allons suivre deux pistes, la piste des oiseaux, et je vous l'ai un peu annoncé avant, et la piste des mammifères. La piste des oiseaux, c'est le travail effectué par Konichi sur la chouette effraie dont j'avais parlé l'an passé, ce prédateur nocturne donc, qui est capable de localiser avec une précision extrême ses proies en l'absence donc d'appel à la vue. Les travaux chez le poulet ont été effectués essentiellement par de Rubel. Alors, tout d'abord, la mise en place de l'anatomie du tronc cérébral en ce qui concerne la localisation de la source sonore, chez l'oiseau. Alors, ce que vous voyez ici en rouge, ce sont les neurones auditifs qui ont fait synapse avec les cellules sensorielles auditives de la papille basilaire, nom que l'on donne à l'organe sensoriel auditif des oiseaux. Ces neurones auditifs vont avoir deux branches axonales, une qui se termine vers le noyau angulaire, qui nous intéresse peu pour l'instant, et une autre qui se termine, alors noyau angulaire c'est N1, une autre qui se termine vers le noyau magnocellulaire que vous voyez ici, donc indiqué sous la forme NM. Alors, le noyau magnocellulaire, donc relais direct des terminaisons axonales des neurones auditifs. Il forme, lui, des calices, j'y reviendrai la prochaine fois, hein, qui sont des calices de type synapse de Held, qui sont des synapses sécurisées que je décrirai au cours des prochains cours. À partir du noyau magnocellulaire, on va avoir des projections de ces neurones du noyau magnocellulaire en vert, projections des axones qui sont des axones branchés. Jusque-là, on était strictement en ipsilatéral par rapport à l'organe sensoriel auditif. À partir du noyau magnocellulaire, on va avoir une branche ipsilatérale et une branche contralatérale. Alors, ces terminaisons axonales ont des branches multiples et elles vont se projeter sur le noyau laminaire qui comporte les détecteurs de coïncidence. Et ce sont ces branches des neurones du noyau magnocellulaire qui ont des longueurs de taille différentes pour les branches qui se projettent donc du côté contralatéral et qui sont donc à l'origine du délai de ligne neuronale que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ce sont des neurones bipolaires et donc ils vont recevoir sur leur dendrite d'un côté, une innervation ipsilatérale donc, qui viendrait de cette oreille et de l'autre côté, sur les dendrites opposées, une innervation de type contralatéral. Alors, il existe en plus des innervations inhibitrices, ici indiquées en rouge, que j'évoquerai brièvement. Donc, on peut dire que l'organisation histologique comme les réponses physiologiques en ce qui concerne l'oiseau correspondent parfaitement bien à cette notion de délai de ligne de Jeffries. Et en 1986, Konnichi publiait des travaux chez la chouette, repris en 90, qui sont en quelque sorte des références dans le domaine. Cette fois-ci, c'est la chouette, et il montrait ce que j'évoquais tout à l'heure qu'avait montré en 69 Goldberg, et qui est la chose suivante. Lorsque vous faites pénétrer une électrode, cette fois-ci contrôlée au niveau du noyau laminaire, si vous avez une stimulation sonore à gauche, ici, elle est en avance pour faire décharger le neurone par rapport à la stimulation à droite, et le délai entre ces deux décharges correspond au temps, au délai temporel pour lequel le neurone a une sensibilité maximale. Alors, j'y reviendrai sans doute aussi, tout ceci repose sur le fait que les détecteurs de coïncidence chez l'oiseau reçoivent des afférences excitatrices qui déchargent avec une précision temporelle absolument considérable. Et c'est donc la coïncidence des décharges, la coïncidence de l'arrivée des potentiels d'action qui va faire décharger le détecteur de coïncidence. Alors, comment est obtenue cette précision temporelle? Alors, il faut savoir que cette précision temporelle est quelque part la marque du système auditif. On la retrouve dans tous les étages du système auditif. En termes de canaux impliqués, on peut dire que tout indique que ce sont des conductances potassiques, bas voltage et haut voltage, qui sont très importantes pour assurer cette précision temporelle. Ce qu'elles font, c'est que dès que le potentiel de la cellule s'élève, aussitôt, elle le ramène à sa valeur de repos. S'il s'agit de conductance haut voltage, si on a affaire à un potentiel d'action, aussitôt, il va être supprimé. Et donc, ceci caractérise les décharges que l'on voit dans ces neurones. Si vous maintenez une dépolarisation, vous n'aurez qu'un seul pic de potentiel d'action. Alors, ceci demande à être approfondi, mais il semble qu'il y ait une distribution de ces canaux qui soit en partie tonotopique et qui expliquerait, en quelque sorte, qui donnerait des éléments d'explication pour la tonotopie des réponses. Alors, maintenant, avant d'évoquer les mammifères, j'aimerais juste vous dire qu'il existe, je vous l'ai montré tout à l'heure brièvement, des circuits inhibiteurs au niveau des oiseaux qui reposent sur la libération de GABA au niveau du noyau magnocellulaire et au niveau du noyau laminaire. Ils conduisent, ce qui est particulier, à des réponses dépolarisantes. On ne sait pas très bien quel est le rôle de ces inhibiteurs. Mais le rôle a été évoqué, en réalité, depuis assez longtemps. Le problème aujourd'hui est de savoir est-ce que ces neurones inhibiteurs ont un rôle ou non dans le traitement du délai temporel interoral. Et la question revient en quelque sorte au devant des préoccupations des chercheurs en raison des résultats qui ont été obtenus chez les mammifères, sur lesquels je vais maintenant me concentrer. Chez les mammifères, l'équivalent du noyau laminaire, on peut dire l'équivalent, est l'olive supérieure médiane. Vous voyez ici un neurone, je vais vous dire tout de suite qu'on va penser détecteur de coïncidence, localisé dans l'olive supérieure médiane, ici figuré en bleu. Pourquoi détecteur de coïncidence? Parce qu'il reçoit une information venant de l'une et l'autre oreille. Contrairement à ce qu'on a vu chez le poulet, elle transite par le noyau cochléaire, ici antéro-ventral. Les dendrites des neurones, qui sont donc binauraux de l'olive supérieure médiane, reçoivent d'une part des afférences excitatrices, indiquées en vert, et d'autre part des afférences inhibitrices, indiquées en rouge. Ces afférences inhibitrices leur sont délivrées par les noyaux du corps trapézoïde, sur lesquels nous reviendrons. Alors, qu'en est-il des réponses? Alors, compte tenu de l'heure, je vais brièvement mentionner les résultats. Nous avons vu tout à l'heure, grâce au travail de Goldberg, qu'il y a bien des détecteurs de coïncidences dans le tronc cérébral et plus particulièrement dans l'olive supérieure médiane. Pour autant, il semble, ce qui était proposé, c'est que la détection de la coïncidence est une détection entre, d'un côté, des afférences excitatrices et de l'autre côté, des afférences inhibitrices. On peut parfaitement réaliser un détecteur de coïncidence qui soit non pas grossièrement celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comme chez le poulet où varie la longueur axonale ici d'un seul côté, mais pour peu que des neurones inhibiteurs déchargent eux aussi de façon synchrone au son, au lieu d'avoir une activation, on aura au contraire une inhibition. Et donc le détecteur, celui-là est parti, répondra à la somme des afférences excitatrices et inhibitrices. Eh bien, ce qui est proposé, c'est que l'on soit dans ce schéma-là. Pourquoi cela ? Il y a quantité de neurones inhibiteurs dans l'olive supérieure médiane, en particulier quantité d'innervation à l'âge adulte de type glycinergique. Alors, avant d'en venir exactement à ce point, j'aimerais tout de même souligner que si les neurones, il existe bien des neurones qui paraissent répondre au délai intertemporal, si on s'interroge sur la base anatomique que l'on peut mettre en parallèle chez les mammifères, eh bien oui, on peut voir des axones qui ont une longueur variable et qui viennent innerver les neurones binauraux. Mais ceci ne s'applique qu'à une toute petite population de ces neurones binauraux. C'est-à-dire qu'on est en droit de se poser la question de la façon dont ces neurones binauraux, autres qui ne manifestent pas de délai de ligne, travaillent. Alors, revenons à cette inhibition. Cette inhibition paraît avoir un rôle central. Cette inhibition, donc, contrôle latéral que l'on voit au niveau de l'olive supérieure médiane, elle paraît avoir un rôle central et ceci est fondé principalement sur des travaux de Benedict Gross et de McAlpine. Ces travaux sont les suivants. Il s'agit de travaux réalisés sur tranches du tronc cérébral et dans lesquels on a enregistré la réponse de ces neurones de l'olive supérieure médiane après stimulation. Ce qui a été observé lorsqu'on stimule les neurones venant de part et d'autre, c'est une réponse ici en bleu. Cette réponse indique, donc montre trois pics, dont le pic médian, curieusement, n'est pas centré sur le zéro. Que se passe-t-il si maintenant on ajoute de la strychnine ? La strychnine va inhiber la stimulation par la glycine. Eh bien, on observe un profil de décharge qui est celui observé en rouge. Donc, un décalage, mais regardez bien, parce que le débat porte sur le type de décalage. Fondé sur ce décalage, les auteurs ont conclu à un rôle important de l'inhibition glycinergique et des neurones correspondants dans la réponse des détecteurs de coïncidences. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas à faire un schéma qui serait type oiseau, dans lequel la réponse correspond à deux influx excitateurs sommés au niveau du détecteur de coïncidences, mais bien d'un côté une réponse excitatrice et de l'autre une réponse inhibitrice, glycinergique, levée par la strychnine. Eh bien, l'argument aujourd'hui est le suivant. Si l'on reprend ces données, certains disent, mais regardons un tout petit peu ce que sont ces données. Quand on enregistre la réponse des noyaux, donc détecteurs de coïncidence, ici dans le livre supérieur moyenne, les auteurs font remarquer que l'on n'a pas une réponse en fonction du délai interoral qui est centré sur le zéro, ni symétrique, ce qui les conduit à dire qu'il existe un autre type de réponse de ce neurone surajouté qui explique la forme enregistrée et qui correspond à une réponse à la mise en place de ce délai interoral. Alors, disent-ils, revenons à ces courbes, hein, dont qu'est-ce qu'elles auraient dû être si on avait affaire à une inhibition de type glycinergique. Eh bien, disent-ils, ce qui était prédit, c'était un glissement de l'ensemble de la courbe par rapport au délai interoral. Or, ce qui est observé, ils ont parfaitement raison, si on regarde les données, il n'y a que le pic central qui a bougé. Par conséquent, ils concluent, je ne sais pas si c'est abusif, mais que les neurones qu'ils ont enregistrés répondent non pas au délai interoral, mais à la mise en place de ce délai, puisque le profil correspond exclusivement au déplacement de la partie centrale de la courbe. Et puis, chemin faisant, finalement, les critiques s'accumulent. Et donc, on est face à la situation suivante. D'autres critiques se font jour, en particulier le fait que cet délai de temps chez certaines espèces est considérable, qui peut atteindre, par exemple, une milliseconde, alors que la taille de la tête prédit que physiologiquement, ce qui aura un sens, ce sera une valeur bien moindre. Alors, de ce fait, ceci est un argument supplémentaire pour s'interroger sur ce que représentent véritablement les enregistrements de ces neurones de l'olive supérieure médiane. Et donc, je vais vous laisser avec cette situation extrêmement paradoxale, dans laquelle, il y a quelques années, on pensait que tout était résolu en ce qui concerne la localisation de la source sonore basse fréquence dans le plan azimutal. Tout collait parfaitement avec la théorie de Jeffries, parce que l'on s'était principalement, mais enfin quelques données de Goldberg avaient mis aussi en évidence ces problèmes d'inhibition, mais on s'était principalement intéressé aux oiseaux. Eh bien, aujourd'hui, vous avez vu la controverse qui demeure en ce qui concerne la neurophysiologie, les bases neurophysiologiques de la localisation de la source sonore dans le plan horizontal chez les mammifères. Et nous verrons que la semaine prochaine, eh bien, la situation est, contrairement à ce qu'on attendait, beaucoup plus claire en ce qui concerne la localisation des sources sonores haute fréquence dans le plan horizontal. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.